Cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jaudard, le 11 janvier 1991.
Je continue ce que je vous avais dit l'autre jour, comme introduction. Nous restons encore dans l'introduction. Bien situer ce qu'est et ce que représente la philosophie du vivant dans l'ensemble de la philosophie. Je vous parlais de la philosophie de la nature que nous avions vue au trimestre dernier avec le vivant. Se pose un nouveau problème. Aristote, de fait, le met à l'intérieur de sa philosophie de la nature. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons accentuer ce qu'Aristote a commencé de faire, mais n'a pas été jusqu'au bout. Que le vivant pose une nouvelle partie de la philosophie. Parce que il y a une nouvelle manière pour nous d'aborder ce sujet. C'est pas la même méthode philosophique. Aristote l'a senti. Ça c'est sûr. Puisqu'il commence par le Peripsuchès, traité de l'âme. Ça n'a pas été, il me semble, jusqu'au bout. Et pour nous, avec toutes les études psychologiques et les études biologiques d'aujourd'hui, nous devons être très attentifs que le vivant peut être atteint d'une nouvelle manière. Alors c'est ça que je voudrais un tout petit peu réfléchir avec vous. Ce qui n'empêche pas que le De Anima d'Aristote, le traité du Peripsuchès, demeure extrêmement intéressant. Pour beaucoup de raisons, du reste. Parce que selon les historiens de la pensée sur Aristote, le Peripsuchès représenterait une œuvre ultime. Ce ne serait pas du tout une œuvre première d'Aristote. Une œuvre où Aristote est déjà très, très, si vous voulez, où il a déjà élaboré beaucoup sa philosophie. Et c'est vrai que le De Anima représente une œuvre très profonde, très spéciale. Il suffit de regarder la topique pour s'en rendre compte. Parce que plus on attaque un sujet important, plus Aristote est attentif à la topique historique. De sorte que ça laisse au De Anima toute sa valeur. Mais je crois que nous devons être très attentifs que le traité du vivant, c'est le traité de l'homme vivant. C'est pas le traité du chien. C'est pas le traité de la vache. Ou de l'éléphant. C'est de l'homme vivant. C'est-à-dire de moi comme vivant. Et de chacun d'entre nous comme vivant. Parce que nous avons pour la vie un privilège très particulier. Comme expérience, puisque la philosophie commence par l'expérience. L'expérience que nous avons de notre vie est une expérience d'une originalité unique, puisque j'assiste de l'intérieur à ce qui caractérise le vivant, c'est qu'il se meut. Quand je regarde l'être physique, je dis il est mu. Et quand je me regarde comme vivant, je dis je me meus. L'expérience que vous avez du vivant lorsque vous parlez, vous communiquez aux autres quelque chose qui vient de vous. Et vous pouvez tout de suite, si on vous comprend mal, corriger. Tandis que quand vous avez écrit quelque chose et que l'autre comprend mal, vous ne pouvez pas tout de suite corriger. Surtout si vous avez envoyé votre lettre loin. Et ça a mis 15 jours avant que ça arrive au destinataire du temps d'Aristote. La poste était très particulière. L'écrit demeure. Mais l'écrit fige. Tandis que, et c'est pour ça que c'est plus l'expérience du vivant, c'est de quelque chose qui a été vécu. Et quand vous recevez la lettre, c'est pas l'expérience d'un vivant. C'est figé. Tandis que quand vous parlez, vous avez l'expérience avec quelqu'un qui vous transmet quelque chose de vivant, la parole vivante. Autre chose est la parole vivante, autre chose est l'écrit. Aristote le mentionne, du reste, il sait très bien que c'est autre chose, et que c'est pas du tout la même chose, et Platon l'avait mentionné. Ce n'est que dans notre monde d'aujourd'hui, on est tellement habitué à l'écrit qu'on le mentionne même plus. Et c'est pourtant très différent. Tout un dialogue de Platon là-dessus. La différence de la parole vivante, du dialogue et de l'écrit. Ce qui est très important pour nous, de reprendre cette distinction. Nous avons donc, par rapport à notre expérience de vivant, nous avons un privilège de pouvoir expérimenter de l'intérieur, d'une manière immanente, ce qu'est l'opération vitale. Je parle. Et quand je parle, je suis dans une situation unique que vous n'avez pas. Comme quand vous me parlez, vous avez une situation unique que je n'ai pas. Moi, je reçois le fruit de votre pensée. Et vous recevez le fruit de ma pensée. Mais quand vous le recevez, c'est mort. Entre deux. Il y a eu la parole qui a transmis. Alors si vous êtes très proche, vous recevez quand même d'une manière différente que si c'était écrit. Et vous dites c'est une parole vivante. La parole vivante est liée à sa source. La parole écrite est coupée de sa source. Mais c'est comme l'analyse du sang. Ben, vous êtes bien obligé, pour faire l'analyse du sang, de prendre du sang d'un vivant, de vous. Mais vous essayez qu'il reste vivant, mais il est mort, forcément. Il n'est plus vivant quand vous l'analysez. Il s'est passé quelque chose. Donc la vie, vous ne pouvez pas le saisir au bout de l'analyse. C'est écrit. C'est comme l'écrit. C'est quand même très important, ça. Autre chose est monter l'escalier sans l'ascenseur. Monter l'escalier. Et c'est bien de monter l'escalier. Parce que si la personne habite au troisième étage, vous avez le temps de vous préparer. L'ascenseur, vous ne vous y préparez pas. Et vous débouchez. C'est le rez-de-chaussée qui est bougé. Comme les garages modernes, paraît-il. On vous fait descendre de l'auto et puis on transporte. Un nouvel ascenseur, un nouveau. Nouvelle invention. Ici, tout près, à Saint-Étienne. D'une originalité tout à fait particulière. Demandez au père prieur, il en avait l'expérience. Ah, il a quitté l'auto. l'auto, il n'a pas fait l'expérience, donc. Moi, j'ai dit que je resterais resté dans l'auto pour en faire l'expérience. Marc, qu'est-ce qui se balade à ce moment-là? Parce qu'on ne sait plus mettre où les voitures, il y en a trop. Alors on essaie de combiner ça avec l'ordinateur. Et on met les yeux tout dans l'ordinateur, intentionnellement. On met les autos dans l'ordinateur. Et on vous demande de quitter, l'auto s'en va, vous avez un numéro, vous pourrez appeler. Et l'auto redescendra. C'est amusant. Hein. Eh bien, l'église, c'est ça. Vous quittez, ça vous a quitté. C'est toujours vous pour reconnaître les signatures. Et, mais en même temps, c'est plus vous. Le sens, c'est la même chose. Je vous donne une petite expérience très simple, mais qui est très importante quand même. Je l'ai déjà dit à certains d'entre vous. C'était des cours que je faisais dans le temps à Poissy, au foyer de charité, devant un public sélect de bourgeoisie instruite. Des polytechniciens, donc bourgeoisie instruite, super instruite, et de professeurs, de PDG, très bien, sous la haute garantie du père Ebrard. Et alors, on avait invité à ce moment-là le professeur Marois, de bourgeoisie instruite, pour faire un cours sur ce que c'était que la vie. La politique, il avait instruit, il avait intitulé ça la politique de la vie. Un cours qui a duré 3 heures. Extrêmement intéressant, palpitant. Puis après, j'étais là. C'était convenu du reste. Après, on a dit maintenant, le père Philippe, en tant que philosophe, va nous dire ce que c'est que la vie. Alors quand on a reçu une douche pendant 3 heures sur tout ce que c'est que la vie, au point de vue résultat de ce que c'est que la science biologique d'aujourd'hui, le philosophe apparaît très pauvre. J'ai commencé par dire, tout ce que vous avez dit, professeur Marois, relève d'expérimentation grâce au microscope électronique. Pourquoi le philosophe d'aujourd'hui ne se sert pas du microscope électronique et garde son regard virginal sur le vivant, l'homme? Par fidélité à Aristote, ce serait triste. Triste fidélité. Par fidélité à saint Thomas, triste fidélité. Alors pourquoi? Je n'éprouve aucun besoin de prendre le microscope électronique. Mais aucun. J'allais presque dire une aversion. Pas parce que je déteste l'instrument. On va faire la philosophie de l'instrument. L'instrument est un médiateur. J'aime bien les médiateurs. Mais j'aime bien les médiateurs qui ne déforment pas. Un médiateur qui transforme, qui déforme, qui abstrait. C'est dangereux. On n'est plus en contact direct. Il y a quelque chose entre deux. J'essaie de faire comprendre devant ces gens habitués à la science, ayant un préjugé pro-scientifique et considérant que les résultats de la science sont bien plus importants que les résultats de la philosophie, leur faire comprendre pourquoi je ne me servais pas de cet instrument. Tout simplement parce que je voulais étudier la vie à travers les opérations vitales. Et conjointe au vivant, c'est-à-dire moi-même, témoin de mes opérations vitales, pour saisir ces opérations vitales dans leur fluxus vital, dans leur devenir vital. sortant directement de la sauce. Et non pas couper la sauce. C'est quand même important, puisqu'on étudie le vivant. On n'étudie pas le mort. Le vieil Aristote disait que le corps cadavérique était équivoquement le corps de l'homme. Très joli, ça. Donc le cadavre ne me fait pas comprendre le vivant. Puisqu'il n'est plus vivant. Il fait comprendre le support du vivant, la cause matérielle du vivant, mais pas le vivant. Comme la lettre me fait comprendre le support de la parole, mais pas la parole vivante. Vous voyez comme c'est important ces petites réflexions par rapport à la Bible et par rapport à la parole de Dieu qui est une parole vivante. Est-ce que l'exégète étudie l'écriture ou est-ce qu'il étudie la parole vivante? Et le théologien étudie-t-il la parole vivante ou l'écriture? Posez-vous les questions, il faut se les poser, même si on n'arrive pas à les répondre, que ça reste une question comme ça. Tout le temps. C'est quand même très important cette question-là. Pourquoi le philosophe ne se sert pas du microscope électronique et du laboratoire, du chimiste et du biologiste? Pourquoi? Parce qu'il veut être un témoin de l'opération vitale. Et comprendre ce que c'est que l'opération vitale. À sa source. Liée à sa source. Conjointe à sa source. C'est ça qui l'intéresse. Pour saisir l'originalité de l'opération vitale. Et non pas saisir les fruits de l'opération vitale. Ou le support de l'opération vitale. Il veut saisir la vie, l'opération vitale, dans son jaillissement. S'il le peut. Autant qu'il le peut. Et même s'il le saisit d'une façon très grossière, il en dit quelque chose. Et c'est important. Il n'a pas le droit de considérer que le cadavre, c'est le corps humain. Il n'a pas le droit de considérer que ce qui est séparé de sa source, c'est la même chose que ce qui est uni à sa source. Autre chose. Et la source jaillissante, autre chose, la canalisation. Vous pouvez empoisonner une ville par la canalisation, par la source. Vous pouvez manipuler sur les canalisations comme vous voulez. Vous ne pouvez pas, lorsqu'il s'agit de la source. La source échappe. Tout le monde a vu de ses propres yeux, si il a été dans la vallée du Rhône jusqu'au bout, dans le Valais, si il a pu constater les sources jaillissantes et les cascades provenant de la source, puis la canalisation à beau jour. On avait un gros tuyau monté jusqu'à la source. Il n'y a plus que le tuyau. Il n'y a plus de cascade, plus rien. C'est beaucoup moins beau, hein. C'est beaucoup moins intéressant. On a perdu quelque chose. Mais c'est très efficace. Qu'est-ce que c'est que ce passage de la source à la canalisation? Vous le regardez comme ça, brutalement. Parce que si on ne le regarde pas comme ça, il y a des choses qu'on ne comprend plus et qu'on ne comprendra jamais. Parce qu'il y a des choses qu'on ne saisit qu'à la source. Il faut remonter à la source. Hein, ce que dit Peggy, pour être philosophe. La canalisation ne vous fait pas philosophe, vous fait technicien. Pour être de l'efficacité, j'aime mieux un technicien qu'un philosophe. Beaucoup mieux. C'est une panne. Je n'appelle pas le philosophe. Panne d'électricité. Ou la conduite d'eau qui fuit. Je veux pas appeler le philosophe du coin. Jean Guiton. J'appellerai le technicien. C'est mieux. Parce que ça... Vous voyez, tout de suite, vous riez, ce qui prouve que vous avez saisi toute la différence de la connaissance de la source et de la canalisation. Alors prenez toute une série d'exemples comme ça. Parce que c'est ces exemples-là qui... Ah oui, il y a quelque chose à saisir, là. J'ai essayé de leur faire comprendre que le philosophe est un pauvre comparativement à toute l'instrumentalisation d'aujourd'hui. Il est un pauvre. Et il sait que l'ordinateur ne lui permettra pas de saisir l'être, ce qui est jamais. Et donc s'il vit avec l'ordinateur, au bout d'un certain temps, il y a un contact qui est perdu. C'est très curieux, mais c'est très intéressant, ça, de comprendre ces choses-là. Et alors, de comprendre que le philosophe va saisir la vie à sa source. Parce que le propre de l'opération vitale, c'est justement une opération qui est liée à la source. L'immanence du vivant. Et que dès que ça jaillit en dehors du vivant, ce n'est plus le vivant. C'est quelque chose du vivant. Alors, c'est très intéressant. C'est quelque chose du vivant. Mais ce n'est plus le vivant. Et ce n'est plus l'opération vitale. Alors, au point de vue connaissance du support, connaissance de la cause matérielle, très très bien. Merveilleux. Mais la cause matérielle n'est pas le vivant. Sauf pour le chinois. Autrement, ce n'est pas le vivant. La cause matérielle ne me dit pas ce que c'est que le vivant. Absolument pas. Il faut essayer de comprendre. Alors, je suis obligé de reconnaître que le vivant va se saisir par introspection. Réflexion sur mes propres opérations dont j'ai conscience. Et c'est cette conscience qui implique une certaine introspection. Alors, attention, deux types d'introspection. Tout de suite. Parce que l'introspection, on sait bien à quel moment philosophiquement ça s'est introduite. Deux types d'introspection. Deux types de conscience. La conscience sur mes actions pour que je sois conscient. C'est une lucidité. Je suis conscient. Et je suis conscient par une certaine introspection. Ce que les néoplatoniciens avait très bien saisi, et Aristote aussi. Il n'appelle pas introspection. Il dit simplement, j'ai conscience, je suis lucide de mes activités. Je sais que je vous parle. Et je suis lucide autant que possible. Sauf qu'il y a quelqu'un qui fait du chahut et qui me distrait, alors je suis obligé de loucher. Alors, il y a la moitié de la conscience qui va d'un côté, l'autre de l'autre côté, et on fait comme à partir de là des erreurs. Mais autrement, si j'ai très attentif, oui, c'est ça, l'aspect de réflexion sur mes activités, et où j'ai une intensité beaucoup plus grande, si j'arrive à me concentrer, ce qu'on appelle se concentrer. C'est l'autolucidité. Ce n'est pas l'introspection au sens absolu où l'on ne regarde que le vécu. C'est deux choses différentes. Parce que je saisis l'opération vitale en elle-même. Et je ne change pas d'objet. J'ai simplement la lucidité. Je suis lucide à cela. Vous voyez donc, quand je dis qu'il y a réflexion dans cette expérience du vivant, il faut bien comprendre que ce n'est pas l'introspection au sens fort, où je m'arrête sur les conséquences de mon opération, le vécu. Tandis que là, je saisis le vivant, l'opération vitale elle-même. Je peux Et cependant, je garde l'objectivité. Oui, c'est ça la très grosse difficulté de la philosophie du vivant. Je suis obligé à la fois de prendre cette attitude réflexive, mais d'une attitude réflexive, pas comme celle de la logique, ni comme celle de la critique. C'est une réflexion sur l'opération vitale pour la laisser dans son immanence, dans son lien avec sa source vitale, sans la couper de sa source vitale, sans regarder les effets de cette opération. La logique regarde les effets et la critique regarde le vécu. Tandis que là, je saisis l'opération vitale dans son fluxus d'opération vitale. Je peux assister, être présent, être témoin de cette opération vitale et essayer de la saisir du dedans le plus que je peux en respectant son originalité de vivant qui se meut. Il a l'initiative de son opération et il sait comment il l'ordonne, il la dirige. Il n'est pas mu par un autre, il se meut. Alors qu'est-ce que ça veut dire se voir et saisir ce que représente cette expérience particulière de saisir une opération dont l'initiative, la source, est au-dedans de moi-même. Et je dis que cette saisie qui implique la réflexion garde toute son objectivité. La philosophie du vivant, ce n'est pas une introspection psychologique. Ce n'est pas une analyse de mon introspection. C'est une analyse de mes opérations vitales qui ont un objet propre et qui, par le fait même, ont un objet propre, peuvent, je peux découvrir leurs principes objectifs qui ont une valeur universelle. Pas seulement des lois. L'introspection donne des lois. Et là, je saisis le principe propre. Comme une partie de la philosophie. L'homme vivant saisit à partir de ses opérations vitales. Je peux saisir ce qu'il est par son âme. Ce qu'il est dans ses opérations de vie végétative, de vie passionnelle, affective, de vie intellectuelle. Donc voyez, la difficulté au plan critique, c'est de comprendre attitude réflexive qui garde l'objectivité et par le fait même peut rester philosophique, dont je saisis les principes propres. Donc, alors il faut le faire pour pouvoir le critiquer. Mais ici, je vois, et c'est la seule chose auquel je veux vous rendre attentif, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau au plan philosophique dans l'expérience que j'ai de vivant. Vous pouvez prendre la marche, vous pouvez prendre la gymnastique, vous pouvez prendre la danse, vous pouvez prendre vous pouvez prendre aussi la pensée. Vous pouvez prendre aussi l'amour. Rien n'est plus subjectif que l'amour et rien n'est plus objectif que l'amour. Quelquefois, c'est purement subjectif. Hein. Dans l'amour passionnel, dans l'amour romantique, c'est la subjectivité qui domine. Vous aimez un idéal. Mon grand-père me parlait tout le temps d'un de ses amis qui voulait épouser Miss Idéal. Alors le jour où il a annoncé ses fiançailles, tout le monde a été voir Miss Idéal. Alors elle s'est incarnée. Elle n'avait pas, ce temps-là, il n'y avait pas le prix de la beauté de la Miss Idéal. Mais on voit très bien ce que c'est. Aimer un idéal, c'est purement subjectif. Ce qui n'existe pas. Aimer un distinguer les causes, mais pas objectives et subjectives. Je ne me sers jamais d'objectifs et subjectifs. Je distingue les causes. C'est tout à fait différent. Oui, parce que objectif et subjectif, c'est dialectique. Tandis que les causes, c'est pas dialectique. C'est un quelque chose de réel. Alors, une fois que j'ai compris ça, je réfléchis sur la diversité de mes opérations. Philosophie de l'homme vivant. La diversité, c'est l'animal le plus diversifié, l'homme. C'est pour ça qu'il est le roi des animaux. Puisqu'il a quelque chose que le lion n'a pas. Je vois la diversité de mes opérations et je vois que toutes ces opérations, ce sont mes opérations vitales. Et c'est la première chose que je peux faire. Je peux avant faire une topique à la manière d'Aristote, c'est bien évident. Montrer toutes les manières dont on a traité la philosophie du vivant. Mais au plan philosophique, c'est assez vite fait. Parce que, au fond, la philosophie du vivant s'est transmise en scolastique. C'est vrai. Qui a un peu sclérosé la philosophie du vivant? Ou elle s'est transformée en psychologie? Ou en biologie? Alors, je veux reprendre une philosophie du vivant à sa source. C'est-à-dire essayer de découvrir la source du vivant. Mes opérations vitales viennent de moi. J'en ai conscience. Mais quelle est la source qui est en moi de mes opérations vitales? C'est la question première, vous voyez. Autrement dit, en philosophie du vivant, la première question qui se pose, c'est de se demander. Aujourd'hui, ça prend une tournure très particulière. C'est de se demander si l'âme, la psyché, est un mythe, puisqu'on parle de l'âme. L'Église catholique, jusque dans le Concile Vatican II, parle de l'âme. Je me souviens, congrès thomiste sur l'âme. Et alors, on avait invité, comme toujours, un cardinal. Ça ne peut pas être autrement. Mais ce cardinal n'est pas nécessairement philosophe. Mais la grâce du cardinal ne donne pas nécessairement la philosophie. Alors, ce cardinal, tout fier, puisque c'est sur l'âme, montrait que dans le Concile Vatican II, l'âme, le terme âme, était présent. Vous voyez bien, messieurs, mesdames, mesdames, messieurs, vous voyez bien que, de fait, on peut encore parler de l'âme. Mais alors, on peut se demander si le Concile parle de l'âme traditionnellement. C'est vrai, l'âme a existé depuis très longtemps. Elle a même pénétré les livres sacrés. L'influence grecque. Alors vous trouvez dans les livres Sapientio, l'âme, psyché, ce qui est très ennuyeux pour la grande tradition sémite. Subitement, le Saint-Esprit est plus accueillant, vous voyez. Il a été terriblement accueillant, le Saint-Esprit. Il a permis que la Grèce transmette le terme psyché. Au livre Sapientio. Et vous trouvez psyché dans l'évangile de Saint Jean. C'est plus intéressant encore que Vatican II. Dans l'évangile de Saint Jean, il y a psyché. C'est quand même intéressant. Dans Saint Paul, il y a psyché. Vous voyez ? Alors quand on dit, parce que on entend tous ça, on a entendu dire ça combien de fois dans sa vie, que l'anthropologie sémite n'avait rien à faire avec l'anthropologie grecque. L'anthropologie biblique n'avait rien à faire avec l'anthropologie d'Aristote. de savoir d'où vient ce langage philosophique. Ce langage philosophique, âme, ne vient pas de la philosophie. Il vient des traditions religieuses. Presque toutes les traditions religieuses. Alors, regardez en Chine. Mais en prenant ces traditions dans toute leur pureté, sans une herméneutique marxiste, regardez dans les traditions, presque toutes les traditions religieuses ont âme et corps, souffle de vie. Il insuffle la genèse dans le corps. Vous voyez bien dans la genèse, les deux. Yahvé va souffler dans les narines un souffle de vie au corps formé par Dieu à partir de la glaise. Évidemment, c'est symbolique, mais le terme âme y est. Le souffle de vie, ben, la signification de l'âme, c'est un souffle de vie, puisque c'est un principe de vie. Alors, corrigeons toujours, hein, quand on vous dit que l'âme, la distinction âme et corps vient de la Grèce. Non. Breyer, qui est un historien honnête, pas génial, mais honnête, très honnête, on s'entend, c'est reposant, c'est avoir des gens honnêtes, si c'est très reposant, parce qu'on peut s'appuyer dessus, c'est la vieille canne sur laquelle on s'appuie. Breyer, quand il regarde la philosophie des stoïciens, qui refuse la distinction âme et corps, Breyer dit, les stoïciens reviennent dans la grande tradition grecque. L'introduction de l'âme et du corps en philosophie grecque provient de l'Inde, par Platon. Aujourd'hui, on est à peu près sûr. C'est Platon qui introduit l'âme dans la philosophie grecque. Et Aristote suit. Donc il faut corriger, parce que une fois que vous dites que la distinction âme et corps provient des traditions religieuses de l'Inde, tout le monde se tait. Tandis que si on dit que ça vient de la Grèce, on s'irrite. Vous savez bien la sensibilité de certains aujourd'hui. C'est comme ça. Alors il faut rappeler l'origine. Distinction âme et corps. Ça vient de l'Inde. C'est intéressant, du reste. Parce que là, il y a une communion avec l'Inde. Profonde. Et comme la Chine est dépendante, vous voyez. Vous retrouvez par là. Vous retrouvez un lieu commun. Et c'est la philosophie du vivant. La philosophie du vivant me met très proche des traditions religieuses. Alors, c'est très vrai. Platon a introduit le terme psyché en philosophie pour montrer que ce n'était pas un mythe, mais que c'était la réalité. Dans l'homme, la réalité, c'est l'âme, c'est pas le corps. Et Aristote montre que le corps aussi est réel, mais s'il est second, ce qui est premier, c'est l'âme. Donc ils montrent un ordre entre les deux. Et après Aristote, le poids de la tradition philosophique est revenu. Les stoïciens ont rejeté la distinction âme et corps, mais les néoplatoniciens sont revenus à la distinction âme et corps. Et toute la théologie chrétienne, du point de départ jusque maintenant, maintient la distinction âme et corps. Il y a une petite rupture sous l'influence des philosophes modernes dans cette tradition. Une petite rupture qui n'est pas très vieille. C'est Merleau-Ponty qui refuse la distinction âme et corps. Oui, la méthode fait logique, puisque c'est la conscience. Alors on voit des théologiens chrétiens aujourd'hui qui refusent à dire ça, parce qu'ils sont âme et corps. Donc c'est très récent. Ou qui disent à dire ça, ils sont âme et corps, très bien. C'était très bien du temps de Saint-Homme. dernier livre. Et Brigitte. C'est très très joli. C'est extrêmement joli ça. Parce qu'il donnait des petits cours aux petits enfants de son village. Son l'instituteur, quand il venait se reposer chez lui, il demandait de donner des petits cours aux enfants. Alors il donnait des petits cours aux enfants, c'est lui qui m'a raconté ça. Il a dit aux enfants, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas dans ce que je vous dis, écrivez-moi. Vous pouvez m'écrire les petits enfants, évidemment. Je ne sais pas quel âge elle avait, Brigitte, mais elle devait avoir 12 ans. Alors Brigitte écrit au professeur Jean-Bernard. Et l'âme. Parce qu'il n'avait pas parlé de l'âme. Et là, signé Brigitte. Alors ça, ça l'a interrogé. C'est beau. Hein? Les enfants qui rappellent aux grands savants quelque chose qui s'oublie. Le biologiste, mais comme savant biologiste, n'a jamais touché l'âme. Et c'est pour ça qu'il a dit, peut-être que maintenant, nous devrions reparler de l'âme. Et son livre, le dernier là-dessus, se termine sur les spiritualistes qui parlent de l'âme. Et c'est qui donc qui prend comme spiritualiste pour parler de l'âme? Et ça termine là-dessus. Alors que de fait, dans la catéchèse, ne parlez pas de la distinction de l'âme et du corps. Oui, on est toujours en retard quand on prend les erreurs. Toujours, la distinction de l'âme et du corps doit être maintenue. Parce que c'est une distinction, pas parce qu'elle est traditionnelle, mais parce qu'elle est vraie. Vous ne pouvez pas expliquer le vivant, l'homme vivant, si vous ne disprenez pas les cinq sons d'âme et du corps. Évidemment, si je pars de la conscience, non, je peux pas. Mais ça, c'est l'introspection. Tandis que si je suis objectif,